Introduction. La réalisation personnelle est l'équilibre parfait entre tout ce qui est positif et négatif en nous. C'est un équilibre harmonieux et dynamique qui nous permet d'utiliser tout notre réservoir d'énergie vitale et de l'utiliser non seulement pour notre profit personnel, mais aussi pour le bien des autres, pour l'enrichissement du collectif et la société tout entière. À cet effet, un éventail de mesures pour un véritable travail de personnalité s'offre à toute personne intéressée de réaliser son vrai potentiel de créativité. Ce texte contient quelques propositions que j'ai moi-même essayées et pratiquées pendant environ une quinzaine d'années. L'auto-hypnose. Il s'agit d'une technique de relaxation profonde qui nous unit avec notre subconscient et qui libère ainsi la pleine force curative de ce dernier. Il y a différentes façons de plonger, pour ainsi dire, dans un état d'hypnose légère. On peut le faire en écoutant de la musique, en mettant une lumière douce, telle une bougie, en s'allongeant confortablement sur un lit ou dans un fauteuil, ou bien on peut y arriver en fixant au regard une boule de cristal ou en pendulant un objet devant les yeux, regardant fixement le bout du nez et encore en priant. Cet état est aussi appelé l'état alpha. Nous nous y trouvons tout naturellement après nous réveiller le matin et le soir, immédiatement avant de plonger dans le sommeil. L'état alpha se caractérise par un abaissement du niveau de la conscience de veille. Il se distingue de l'état de sommeil par le fait que la conscience est active et qu'il y a encore un certain contrôle sur les pensées, ce qui n'est normalement plus le cas dans l'état de sommeil. Pourtant, dans cet état particulier, les inhibitions et blocages du moi qui empêchent le subconscient à agir positivement sur le corps et sur l'âme sont sinon enlevés, mais en tout cas nettement diminués. Comment l'état alpha peut-il être utilisé avantageusement pour le développement de la personnalité? Il y a là essentiellement trois buts d'application. La guérison des blessures de l'âme, des traumatismes, le changement de l'image de soi, de l'image du corps, et l'effacement des prototypes négatifs dans le subconscient. Le premier mode d'application pourrait être aussi appelé curatif, les deux autres correctifs. Le premier mode est donc un travail autothérapeutique, les deux autres sont des méthodes d'auto-programmation positive. Le travail autothérapeutique. En guise d'introduction, il nous faut d'abord préciser pourquoi un travail est nécessaire et indispensable pour arriver à la pleine réalisation du potentiel créateur de l'homme. Il y a en chacun de nous, même si nous avons grandi dans des milieux familiaux relativement sains, un résidu de blessures non encore cicatrisées provenant des conflits de maturation et d'adaptation qui n'ont été surmontés qu'imparfaitement et qui risquent ainsi de se répéter inlassablement dans notre vie. Ceci vaut d'autant plus pour ceux d'entre nous qui ont subi des traumatismes plus ou moins graves lors de leur enfance et adolescence. Chaque blessure intérieure crée un point aveugle, une vulnérabilité particulière qui fausse la manière de percevoir et concevoir la vie, de sorte que ces points aveugles entravent l'approche flexible, saine et heureuse au vécu quotidien. Une telle approche faussée à la vie, typiquement marquée par l'angoisse et la rigidité, mène, dans le cas extrême, à la maladie mentale. Avant qu'une maladie se somatise dans le corps, nous pouvons être atteints de dépression. Typiquement, nous souffrons alors d'insomnie et d'insatisfaction générale. Beaucoup aujourd'hui se plaignent d'un vide intérieur ou de migraines. Chez la plupart, il y a tension musculaire, angoisse, haine, rancune ou un regard généralement négatif sur la vie. Pour tout ce genre de problème, la même approche thérapeutique, soit la restitution de l'équilibre émotionnel et le maintien d'une paix intérieure profonde, est le remède le plus efficace et à la fois le plus anodin. Il s'agit donc, dans l'état de relaxation, de regarder en soi, de faire le point des problèmes actuels et de chercher leurs causes. Ce n'est bien entendu pas une recherche consciente qui passe par la réflexion, mais une approche intuitive, spontanée. En Orient, on appelle cette introspection méditation. Comme cette expression a été mal entendue beaucoup dans le monde occidental, je préfère parler de l'introspection ou du dialogue intérieur. Après avoir demandé calmement à votre subconscient de révéler les causes et origines des problèmes ou angoisses actuelles, vous vous mettez temporairement dans un état de bien-être volontairement créé devant l'écran mental. Le mieux d'y arriver, c'est par focaliser votre flux d'énergie vitale qui coule dans cet état merveilleux librement à travers vous. Vous ressentez ce flux, une fois vous êtes calme et connecté à votre guide intérieur, par une sensation de chaleur fluide ou bien simplement par une sensation de profonde relaxation et de paix intérieure. Ensuite, une intuition va ressurgir, peut-être une mémoire lointaine d'un événement passé, de l'enfance, ou la mémoire d'une personne particulière, d'une situation. Ou bien on se voit plongé dans une circonstance du passé ou du futur, ou encore on recevra une intuition artistique créatrice. À ce moment-là, il s'agit de visualiser, de faire vue passer la situation et de sentir à nouveau ce qu'on l'a senti lorsque l'événement s'est actuellement produit. Il est essentiel de revivre affectivement le sentiment qui a laissé sa marque dans l'âme. Ce peut être un sentiment d'humiliation profonde, une peur ou l'atroce sentiment d'être abandonné par tout et par tous. Après ce travail, qui peut être accompagné de pleurs, il est important de vous relaxer à nouveau afin de vous imbiber de sentiments nouveaux, positifs, rassurants, et de vous dire avec soulagement que dorénavant, cette blessure est cicatrisée. Quand vous rencontrez en imagination la personne dont vous vous souvenez, et cela peut bien se produire avec des personnes que l'on a oubliées depuis 20 ans, il faut que vous preniez contact avec elles. Quand vous revivez la situation en imagination, vous entrez directement en contact avec l'esprit de la personne, ce qui veut dire télépathiquement. Dans la plupart des cas, il y a nécessité de pardonner proactivement la personne afin de trouver une complète paix intérieure. Dans le cas où vous rencontrez vous-même, par exemple, l'enfant que vous aviez été, qui est l'enfant en nous, vous essayez d'établir doucement un dialogue avec cette voix intérieure. Vous l'accordez ensuite toute la confiance et toute la bienveillance dont vous êtes capable et vous lui posez calmement cette question. Comment vas-tu? Vous allez recevoir une réponse, immédiatement ou plus tard. Cette réponse peut être une intuition, un intérêt qui surgit, une idée nouvelle ou bien un rêve. Par ce dialogue intérieur, vous entrez donc en contact avec l'enfant en nous, l'enfant qui est souvent oublié ou négligé, que nous avons tout simplement fait taire, dans nos cœurs desséchés par la castration affective qui faisait partie de l'éducation faussée que la plupart d'entre nous avions subie. Vous allez vous apercevoir que ce travail libère un potentiel inouï de créativité personnelle, à la fois une véritable résurgence de l'affectivité s'ensuit et les angoisses se trouvent nettement amoindries, sinon effacées. Le contact avec l'enfant en nous, une fois établi, ne se perdra plus jamais. Cet enfant qui est toujours enfant prodigue, une fois retrouvé, nous sera constamment source de créativité, de joie et d'intelligence. Toute créativité, toute originalité, toute inventivité, tout ce qui est véritablement intense et vivant dans l'homme provient de cet enfant intérieur. Tout génie est enfant prodigue. Tout ce qui est génial, créateur et grandiose est en vérité simple, enfantin. Le travail autocorrectif. Les deux modes proposés ici concernent l'effacement du conditionnement négatif dans le subconscient et l'établissement d'une nouvelle structure positive. Tout conditionnement laisse une trace dans notre subconscient. Quand notre conditionnement était négatif vis-à-vis de la vie, notre subconscient souffre de prototypes négatifs et notre regard sur la vie sera par conséquent essentiellement négatif. Et comme les pensées attirent les circonstances extérieures, nous allons rencontrer dans notre vie surtout des événements que nous ressentons comme négatifs. Pour changer notre vie, il nous faut changer nos pensées. Mais comme nos pensées sont à leur tour conditionnées par les prototypes que nous portons dans notre esprit subconscient, il nous faut changer ces prototypes négatifs dans le subconscient. L'image que nous avons de nous-mêmes est souvent différente de ce que nous sommes en réalité. Si notre image de soi est négative, nous souffrons d'un manque de confiance en nous, des sentiments de culpabilité ou d'infériorité. Ceci a la racine de beaucoup de mal dans le monde, car l'image que nous avons de nous est celle que nous projetons sur les autres. Si nous manquons de respect vis-à-vis de nous, nous manquerons de respect à l'égard des autres. Si nous ne pouvons pas nous aimer, nous n'arriverons pas à aimer les autres. C'est pourquoi, pour changer les autres ou le monde, il nous faut commencer avec nous-mêmes, et donc par changer le plus que possible le regard que nous portons sur nous. Dans l'état de relaxation profonde, nous pouvons modifier positivement l'image de soi. Il suffit de nous suggérer des paroles rassurantes quant à notre valeur, notre beauté, notre utilité, notre originalité et surtout l'appartenance divine de notre âme, notre liaison avec l'ordre divin. Cela efface déjà en grande partie les prototypes négatifs dont notre subconscient a été imbibé durant notre enfance. En outre, il convient de rejeter consciemment des images négatives sur nous-mêmes et sur d'autres qui hantent comme des spectres nos pensées. Il nous faut surtout comprendre qu'il s'agit là effectivement des ombres qui n'ont point de réalité. Un état d'esprit vraiment positif ne donne lieu à aucun négativisme, à aucune affirmation destructrice ou péjorative. Avec cette approche, on peut corriger toute image négative dans notre subconscient. Dans un avant-stade de l'hypnose, de la relaxation profonde, il convient en outre, dans un état de réflexion intérieure, qui est observation attentive de tout le processus de la pensée, de se rendre compte des projections, souvent inconscientes, que nous faisons sur les autres. Une projection est une image mentale qui projette sur l'autre ce qui est aveuglé en nous-mêmes par un blocage de perception. En nous refusant à admettre certains défauts en nous-mêmes, nous projetons ces défauts sur d'autres gens. Comme nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous écartons de nous en se faisant les côtés dont nous renions l'existence et ainsi créons une ombre En pratique, cela veut dire que nous critiquons, voire condamnons dans l'autre exactement ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Ces projections peuvent être neutralisées par le développement de la conscience. Une fois que nous avons rendu consciente une projection, elle perd sa réalité, car elle n'est qu'une ombre qui est anéantie par la lumière qu'apporte la conscience. La qualité d'une relation change essentiellement une fois que les partenaires ont détruit les images qu'ils ont établies l'un ou l'une de l'autre. Comme notre cerveau fonctionne de façon de se faire constamment des images des autres et également de nous-mêmes, il faut dans une relation vivante détruire constamment de telles images périmées. C'est ainsi parce que ces images sont fixes, rigides et faussent la façon dont nous percevons l'autre. Au lieu de voir l'autre tel qu'il est, nous voyons en lui seulement ce que nous sommes préparés de voir. À cause de leur rigidité, de telles images empêchent toute relation humaine d'évoluer, tout progrès dans la prise de confiance mutuelle et la compréhension profonde de l'autre. Une relation se transforme, change constamment, tandis que les images restent des moments figés. De là l'importance de nous libérer des images mentales, des projections. Il est de même avec les images que nous établissons de nous-mêmes. Nous nous voyons comme un tel ou tel, nous fixons ainsi dans certains rôles que nous jouons et répétons tels les acteurs imaginaires sur la scène de la vie. Si nous ne détruisons pas de temps en temps les images que nous portons sur nous-mêmes, les adaptons à notre évolution personnelle, nous risquons de stagner, de vivre continuellement dans le passé et par là même de rester un éternel enfant ou un éternel adolescent qui est empêché de grandir et d'agir de façon mûre, adulte.